France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, Donald Trump est-il notre allié ? Et en Iran, jusqu'où ira la révolte des bazars ? Nous serons avec le directeur de l'IFRI, Thomas Gomard, la journaliste Sylvie Kaufmann, l'historien Étienne Perra et le professeur en relations internationales Bertrand Badi. Une émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
Le Groenland n'est pas à vendre, il appartient aux Groenlandais. Et son avenir se définira dans l'accord entre les autorités du Groenland et du Danemark. Quant à une éventuelle intervention par la force, même si je ne fais pas de politique ou de diplomatie fiction...
Là, c'est pas de la politique fiction, c'est la porte de la Maison-Blanche.
Elle n'aurait absolument aucun sens. Pour un pays de l'OTAN, de s'en prendre à un autre pays de l'OTAN, ça n'aurait aucun sens. Et surtout, ça serait absolument contraire aux intérêts des États-Unis d'Amérique...
Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, sur France Inter, mercredi 7 janvier. Car au lendemain de la capture, sous les yeux ébahis du monde entier de Nicolas Maduro au Venezuela, c'est sur le Groenland que le président américain jette son dévolu. On en reparlera dans 20 jours, promet-il, dans son avion, à propos de la plus grande île du monde, située en Arctique, entre l'Islande et le Canada. Ce n'est pas la première fois qu'il a des visées sur elle. 7 pays européens, la France, le Danemark, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont réagi. Dans une déclaration commune le 6 janvier, il appartient au Danemark et au Groenland à eux seuls de décider des questions concernant le Danemark et le Groenland. Peut-on lire en conclusion avec cette question que peut ce genre de déclaration face à Donald Trump ? Le même jour à Paris, mardi, la coalition des volontaires accueillait pour la première fois deux participants venus des États-Unis. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et l'émissaire du président américain Steve Witkoff. Ils soutiennent la déclaration de Paris qui permet des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de cesser le feu. Les États-Unis apparaissent comme garants, mais ne signent pas le document. Et comme un contraste, peut-on se fier à notre allié qui promet de récupérer par n'importe quelle méthode, douce ou forte, le Groenland, territoire européen par le Royaume du Danemark, membre de l'OTAN et de l'Union européenne, et qui négocie directement avec Moscou la fin de la guerre en Ukraine. Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Merci à vous d'être là ce matin, professeur en relations internationales. Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, c'est votre dernier livre qui est chez Odile Jacob, à paraître le 14 janvier, la semaine prochaine. Bonjour à vous Thomas Gomard.
Bonjour Astrid de Villaine.
Merci d'être là, directeur de l'Institut français des relations internationales. Vous aussi, un livre à paraître chez Talendier le 22 janvier. Qui contrôle qui ? Les nouveaux rapports de force mondiaux. Bonjour à vous Étienne Perra.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Sciences Poly, l'historien des relations internationales. Et Sylvie Kaufmann est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour Astrid.
Journaliste au Monde. Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie en collection Folio chez Gallimard. C'était en octobre 2024. Alors, dans quelle ère sommes-nous passés, Bertrand Badi ?
On a vu se succéder, depuis la bipolarité, depuis la guerre froide, toute une série de guerres d'un nouveau type. Il y a eu les guerres d'intervention qui se faisaient au nom de la théorie des dominos, c'est-à-dire il faut agir tel endroit pour éviter la contamination de l'influence de la superpuissance, etc. Puis après, on a eu les guerres de stabilisation, il faut intervenir pour contenir des mobilisations, des formes terroristes plus ou moins avérées, des djihadismes de toute nature... Après, on a eu les guerres de conversion, c'est-à-dire il faut faire du regime change. Je le dis en anglais, ça fait plus chic et ça fait plus convaincant.
On aime bien traduire quand même, nous, sur France Culture. Changement de régime.
Bravo. Quelle maîtrise.
Merci à vous, Bertrand Badi.
Et donc, ces guerres de conversion, de changement de régime, qui alors là, avaient pour but de mettre la force au service de valeurs auxquelles on adhérait ou on faisait semblant d'adhérer. Il faut considérer que toutes ces formes qui évitaient la guerre de confrontation, c'est-à-dire l'opposition directe à la puissance d'en face, ont toutes lamentablement échoué. Vietnam, Irak, Sahel, Ukraine et Afghanistan. Et donc, on voit depuis un certain temps se profiler une nouvelle forme d'intervention, une nouvelle forme de confrontation qui repose sur l'habilitation de la puissance pure. C'est-à-dire, il ne s'agit plus de mettre la puissance au service de valeurs ou au service d'une stratégie mondiale, de ce que autrefois, dans l'Antiquité, on appelait la géopolitique, n'est-ce pas ? Mais il s'agit de s'affirmer. Le monde est à celui qui s'affirme le plus et le plus directement et fait ainsi prévaloir une puissance nue, libérée du droit, et ça, c'est quand même un tournant extrêmement important, libérée des valeurs, libérée des grands calculs stratégiques. On est, si vous me passez l'expression, dans la gonflette diplomatico-militaire. C'est-à-dire, on ne survit dans le monde qu'à partir du moment où on montre ses muscles politiques, peut-être diplomatiques, et surtout militaires. Et ça conduit à une opération militaire spéciale en Ukraine, ça conduit à une opération militaire spéciale au Venezuela. Ça peut conduire à une opération militaire spéciale, ou une opération économique spéciale, ou une opération politique spéciale en direction du Groenland. Pourquoi ? Parce que l'art de cette forme nouvelle de conflictualité, c'est viser le moindre coup. Ne pas engager des troupes au sol parce que ça coûte trop cher, etc. Et donc, le moindre coup passe par quoi ? Par l'absence de résistance en face. Et je vois, et c'est ce qui m'inquiète beaucoup, l'Europe, depuis un certain temps, tout faire pour démontrer à M. Trump qu'il ne risque rien en se lançant dans ce genre d'aventure. Tout faire, c'est-à-dire laisser sanctionner Thierry Breton, laisser Monsieur Trump imposer ses tarifs douaniers, laisser Monsieur Trump faire une opération militaire spéciale totalement illégale au Venezuela. Il doit se dire, mais ils sont très aimables avec moi, n'est-ce pas ? Et puis, l'Europe est dans ces jours sombres où plus elle est humiliée, plus elle semble contente. Donc, nous en sommes là, nous sommes au bord du gouffre. J'en connais beaucoup qui rêvent de faire un pas en avant.
Thomas Gomard.
Astrid de Villene, vous avez dans votre introduction relié le dossier du Groenland à celui de l'Ukraine. Et dans le prolongement de l'exposé de Bertrand Badie, moi je vois les choses différemment. C'est-à-dire que la grande différence pour l'instant entre ce qui s'est passé au Venezuela ou ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'en Ukraine, on a une guerre d'attrition dont on ne se représente pas au fond l'importance en Europe. C'est ça le problème fondamental à mon avis pour les Européens, c'est que ayant évacué les questions stratégiques depuis plusieurs décennies grâce au succès de leur projet, ils se retrouvent aujourd'hui dans l'incapacité de penser le fait que la Russie a 1 200 000 pertes en Ukraine, hein, tués, disparus et blessés, et c'est probablement du même ordre pour les Ukrainiens, sans parler des victimes civiles. Ce que je veux dire par là, c'est que l'usage de la force, c'est pas que du spectacle en réalité. Ce qui a été du spectacle, c'est la capture de Maduro, mais que ce qu'on met sous le registre d'opérations militaires spéciales, ont en réalité produisent des effets extrêmement violents pour les personnes, pour les biens. Et ça conduit à une réflexion, à mon avis, différente, c'est qu'en réalité, on a le champ des perceptions qui est complètement saturé par Donald Trump pour une raison assez simple, c'est que ce champ des perceptions, au-delà du personnage, du spectacle qu'il impose, il maîtrise également les principaux moyens de communication mondiaux, directement ou indirectement. Et puis, il y a le champ du matériel. Et les Ukrainiens, on a beau leur dire c'est une opération militaire spéciale qui a échoué, en réalité, quand on est bombardé tous les jours, c'est pas un échec, d'une certaine manière. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, sous ce terme d'opération militaire spéciale, ou cette impression que tous les conflits sont de même nature, de même portée, produisent les mêmes effets, il faut probablement avoir une analyse, à mon avis, plus précise. Et le lien, moi, que je fais entre le Groenland et l'Ukraine, c'est que les Européens sont effectivement, pour rejoindre sur ce point Bertrand Badie, sont dans une situation de désarmement intellectuel, moral, militaire, à mon avis, que partiel, mais c'est là aussi par rapport à ce qu'ils voudraient faire de leur outil militaire. Ils veulent à tout prix conserver les États-Unis à bord pour l'Ukraine. C'est tout le principe qui a présidé à cette réunion de la coalition des volontaires, je le rappelle, avec l'idée d'apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Hein, et on est, à mon sens, à mon avis, encore loin de cette situation, et que ces propres garanties de sécurité produites par les Européens seraient elles-mêmes assurées, avec l'incertitude déjà mentionnée, par les États-Unis. Et dans le même temps, ils doivent gérer, dans le champ des perceptions, les déclarations de Donald Trump qui expliquent que, au fond, les États-Unis désormais, la politique américaine désormais, ça va du Cap Horn à Nouk. Et que c'est le retour à une sphère d'influence. Et effectivement, les Européens, de ce point de vue-là, se retrouvent très désemparés parce qu'ils ont besoin de ce système d'alliance face à la Russie. Et en même temps, leur principal allié, celui qui leur a assuré la sécurité depuis 1945, met en pièce le droit international sans lequel les Européens peinent à exister sur la scène internationale.
Étienne Perrin.
Ouais, moi, par rapport à ce qui vient d'être évoqué, à la fois par Bertrand sur la question du retour d'une force brute, presque à l'état chimiquement pur, et par Thomas sur la question de la concordance en fait des différents terrains d'affrontement. Et il me semble, pour reprendre peut-être le terme d'une autre émission du service public, en termes de concordance des temps, il y a quelque chose d'assez intéressant qui se joue, c'est-à-dire que ce retour de la force pure et cette combinaison des terrains rappelle pas mal une époque que parfois on appelait l'âge de l'impérialisme, entre la fin du 19e et puis les années 1900-1910, où on avait à la fois une utilisation de forces brutes, notamment dans ce qu'on appelait à l'époque la diplomatie de la canonnière, qui d'ailleurs se jouait beaucoup dans les Caraïbes. On aimait bien le Venezuela déjà à l'époque pour des histoires plutôt de dettes non payées ou pas assez vite remboursées. Et puis aussi pour cette capacité à mettre en balance des choses qui se passaient à différentes parties de la planète. Et donc à considérer qu'on pouvait en effet troquer un certain nombre d'intérêts, d'avantages qui se passent en Asie, sur le continent africain, en Amérique latine. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on dit assez souvent que Donald Trump ne connaît pas l'histoire, ce qui, je suppose, est relativement vrai dans l'ensemble. Mais en même temps, dans son comportement, il reproduit aussi et reprend un certain nombre de motifs ou d'éléments de répertoire de la politique étrangère américaine. Et de ce point de vue-là, alors Donald Trump nous a parlé de la nouvelle doctrine qu'il avait inventée, la Donroe doctrine, par référence détournée à la doctrine Monroe de 1823. La réalité, c'est quand même, quand on regarde un petit peu les comparaisons qui sont pertinentes, souvent le lien se fait plutôt avec le président Roosevelt, alors Theodore Roosevelt, pas Franklin Roosevelt de la Seconde Guerre mondiale, mais Theodore Roosevelt qui était président tout début du XXe siècle et qui avait finalement formulé ce que nous on a parfois tendance à appeler la doctrine Monroe, mais qui en réalité au XIXe siècle avait été assez peu mise en œuvre, puisque c'était plutôt une espèce de vision qui tendait à ce que les Européens n'interviennent pas sur le continent américain, tandis que le président Roosevelt, en 1904 notamment, formule lui une autre vision d'un impérialisme américain sur le continent dans son ensemble. Et de ce point de vue-là, Donald Trump reprend un peu ces éléments. Et par rapport au Groenland, moi, il me semble qu'il y a quand même trois choses qui sont vraiment intéressantes et qui font un peu écho au passé. C'est que Donald Trump, alors on le dit beaucoup et c'est évidemment répété par les élites du Groenland et du Danemark, le Groenland n'est pas à vendre. Bon, ça fait quand même, en 1867, il y a une première proposition d'achat des États-Unis du Groenland. À l'époque, d'ailleurs, où les États-Unis ont racheté l'Alaska. Ce qui montre que la question de l'achat de territoire, à l'époque, n'était pas quelque chose qui était absolument impossible. En 1917, il y a une nouvelle proposition d'achat. Il y a différentes choses qui sont faites. D'ailleurs, le Danemark avait vendu ses îles Vierges pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Donc, au fond, l'idée d'achat peut sembler un peu absurde aujourd'hui, mais historiquement, a quand même aussi des fondements dans une logique de troc. La deuxième chose, c'est que quand même les États-Unis, quand Trump parle de manière de contrôler ce territoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis imposent un protectorat au Groenland. Alors ce protectorat, évidemment, s'explique par le fait que le Danemark est occupé par l'Allemagne nazie, mais la configuration est quand même intéressante, puisque c'est un ambassadeur du Danemark aux États-Unis, qui s'appelle Henrik Kaufmann, qui négocie de manière assez autonome, en fait, le fait de placer le Groenland sous protectorat de défense américain, ce qui ouvre en fait une période qui va jusqu'à nos jours, avec une présence militaire américaine, avec une forme de reconnaissance d'un intérêt un petit peu partagé des États-Unis sur ce territoire. Et puis la dernière chose, c'est que je pense que dans toute la mobilisation, comme disait Bertrand tout à l'heure, de la force pure, il y a aussi quand même une espèce de point de force de la position des États-Unis qui est d'utiliser certains points de tension interne dans la relation entre le Danemark et le Groenland, puisque évidemment dans la relation c'est quand même que depuis le début des années 1950 que techniquement le Groenland n'est plus une colonie du Danemark. Depuis, évidemment, il y a eu toute une évolution pacifique, négociée, discutée, ce qui ne veut pas dire sans tension interne. Et Donald Trump a quand même ce don que tout le monde lui reconnaît, en disant tout et son contraire d'ailleurs, de dire simultanément, pour commencer un discours, qu'il adore les Danois, mais qu'en même temps, il faut vraiment que ça s'arrête, cette histoire de contrôle danois sur le Groenland, qu'il adore par ailleurs le peuple du Groenland et qu'il veut d'ailleurs son émancipation, et que pour obtenir son émancipation, il faut se placer sous contrôle des États-Unis. Et de ce point de vue-là, il recompose aussi l'idée même de décolonisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se décoloniser en passant sous le contrôle d'une autre puissance ? Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça vient aussi rebattre un peu les cartes de ce qu'on pensait savoir sur l'autonomie, la souveraineté et l'indépendance.
Sylvie Kaufmann.
Oui, alors c'est vrai que nous avons des historiens autour de cette table, donc c'est, je pense qu'on n'échappe pas à cette comparaison, en effet, avec la fin du 19e siècle. On a l'impression d'être revenu dans cette période, et si Donald Trump ne connaît vraisemblablement, enfin n'est pas un grand étudiant de l'histoire, en tout cas les deux personnages auxquels il se réfère fréquemment, ce sont effectivement le président James Monroe et McKinley, qui sont de cette époque-là et qui sont ceux qui ont présidé à l'expansion territoriale des États-Unis. Donc on se retrouve en effet dans une approche américaine qui est à nouveau d'expansion territoriale et même d'impérialisme des ressources naturelles, d'une certaine manière, puisque il s'agit à chaque fois de prendre le contrôle soit du pétrole, enfin de sources énergétiques, soit de ces fameuses terres rares et minéraux critiques qui sont aujourd'hui tellement cruciaux pour l'économie moderne. Mais je suis assez d'accord que tout ça est l'aboutissement d'une évolution des relations internationales que nous, en Europe, on a voulu ignorer en réalité. C'est ça notre grande faiblesse, c'est ce qu'on paye aujourd'hui, c'est d'avoir pas voulu voir les signes avant-coureurs de cet effondrement total du système international ou de l'ordre international de l'après-Deuxième Guerre mondiale, mais qu'on voyait déjà à l'œuvre avec Vladimir Poutine, qui est quand même là depuis l'an 2000, donc ça fait 26 ans maintenant, et dont on a bien vu progressivement à quel point il faisait fi de ce droit international. L'ascension de la Chine, d'une certaine manière aussi, de manière plus douce, c'est-à-dire que la Chine a ce talent de prétendre défendre l'ordre, le droit international, tout en l'érodant parallèlement à son avantage, pour le tourner à son avantage. Et puis, on a eu quand même ce premier mandat on a eu bien sûr la guerre d'Irak, la présidence Bush avec aussi beaucoup d'accrocs au droit international. Et puis on a eu ce premier mandat Trump dont on a pensé qu'il n'était qu'une parenthèse. Or, America First, c'est déjà une doctrine en soi. Et maintenant, elle est mise en pratique. Alors là, on a ce deuxième mandat Trump. On a quand même une année 2025, première année de ce deuxième mandat, qui est très éloquente sur ses intentions et qui se termine par la publication de ce document à Washington, la stratégie de sécurité nationale, qui est voilà la formulation de cette doctrine Trump. Alors bien sûr la doctrine Donro, comme vient de la rappeler Étienne Perra, mais aussi l'ensemble, l'affirmation de cette hémisphère occidental sur lequel les États-Unis doivent régner sans aucun partage et dans lequel ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça c'est très clairement énoncé. Ce qui est très clairement énoncé aussi, c'est que l'Amérique a des alliés, nous par exemple, ceux de l'OTAN, mais que ces alliés doivent servir les intérêts des États-Unis. Voilà, donc tout ça est énoncé noir sur blanc, provoque un choc terrible dans toutes les chancelleries diplomatiques, évidemment. Une fois de plus, on n'a pas vu venir. Et un mois après, trouve son application pratique dans cet événement de la prise de contrôle de l'intervention militaire au Venezuela, qui est préparée depuis de longs mois, à nouveau sans que personne ne s'en doute, et qui se traduit par l'enlèvement du président et sa comparution devant la justice américaine. Tout ça se fait de manière parfaitement unilatérale, c'est-à-dire, bien entendu, sans mandat international, mais unilatérale aussi en politique intérieure, puisque le Congrès n'est pas du tout consulté. Voilà, donc on a maintenant aussi, tout ça est commenté par le président Trump dans une interview extraordinaire, je dois dire, au New York Times. Il parle beaucoup, mais il y a quelquefois des moments où on doit s'arrêter sur ce qu'il dit. Et dans cette interview qu'il a donné mercredi au New York Times, il dit, on lui demande par exemple, est-ce que vous sentez limité d'une certaine manière par le droit international? Qu'est-ce qui peut limiter votre action sur le plan international? Il dit non, le droit international, j'en ai rien à faire. La seule limite que je peux trouver, c'est ma propre moralité, c'est mon propre état d'esprit. Donc c'est moi. Hein? Et puis on lui demande aussi sur le Groenland, mais vous savez, finalement, vous dites que vous voulez prendre le contrôle du Groenland parce qu'il y a une menace russe, une menace chinoise, des bateaux, des navires chinois, des navires russes qu'il faut écarter. Vous pouvez le faire puisqu'il y a un traité de 1951 qui vous permet d'envoyer 20 000, 30 000 soldats américains, si vous voulez, sur ce territoire. Il dit non, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de posséder ce territoire. Je veux la propriété de ce territoire. Et le journaliste lui dit, mais pourquoi la propriété? Et il dit, parce que c'est ça qui me donne l'assurance psychologique que j'ai réussi. Voilà. Donc, on est dans ce modèle-là qui, évidemment, pour les Européens, est totalement déstabilisant. Parce que c'est tout le contraire de ce sur quoi le projet européen est construit. L'Union européenne est un projet de paix, on l'a assez dit autour de cette table, qui s'est complètement anesthésié de tout ce qui est puissance, force militaire, et on a maintenant un théoriquement allié qui n'aurait aucun problème à envahir un des États membres de cette alliance et qui nous dit de toute façon la force. C'est la seule chose dans laquelle je crois. Voilà.
Le président Trump ne revient pas sur ses engagements. Il est ferme en faveur de l'Ukraine et d'un accord de paix. Et nous serons aux côtés des Ukrainiens pour les aider à parvenir à cette paix définitive. Et nous sommes convaincus que nous y arriverons.
Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump à Paris le 6 janvier. Il participait pour la première fois à une réunion de la coalition des volontaires avec Jared Kushner, le gendre du président américain, ici traduit par nos confrères de TV5 Monde. Bertrand Badie, pour reprendre le fil et le titre de cette émission, Donald Trump est-il notre allié? Moi, j'ai fait le lien entre Groenland et Ukraine, puisque je me suis dit, on a un allié de l'OTAN, les États-Unis, qui veulent prendre un territoire qui appartient plus ou moins au Danemark. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut compter sur lui? Je crois que dans votre dernier livre, vous parlez beaucoup des loups obsiens, vous parlez des états gladiateurs et vous dites même, si je vous ai bien lu, que la notion d'allié est presque périmée dans cette période.
Elle est totalement périmée et ça on ne s'en rend pas compte. Elle a été remplacée par la notion de connivant. Deux petites remarques avant. Je ne crois pas du tout à l'idée de zone d'influence. Un bateau de guerre américain bombarde le Nigeria à partir du golfe de Guinée, c'est pas la zone d'influence américaine. Quand Trump menace d'intervenir en Iran, c'est pas la zone d'influence américaine. Quand il construit ou veut construire cette idée ridicule de Riviera à Gaza, il est pas dans sa zone d'influence. Donc il faut faire un grand coup de balai à toutes ces vieilles notions.
Vous voulez dire la doctrine d'Unruh? Vous trouvez qu'elle est pas exacte, en fait?
Mais oui, alors, elle n'est pas exacte du tout, parce que Monroe voulait dire tout à fait autre chose, qui était l'émancipation, au contraire, par rapport aux Européens. Tout ça, vous savez, l'histoire n'offre que des allées simples. Il ne faut pas jouer sur les retours de l'histoire, et notamment cette notion farfelue et trompeuse de zone d'influence. Deuxième élément que je voudrais dire, la force, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas seulement pour des raisons psychologiques, ce n'est pas parce que l'homme est fantasque qu'il utilise cette force pure. La force pure, elle a deux significations qui sont extrêmement importantes. D'abord, elle correspond à une demande sociale. Je veux dire, dans le vent néo-populiste actuel, il y a une demande d'hommes forts, de ce que j'appelais la gonflette tout à l'heure. C'est un élément qui devient très très important. Sauf que cette demande sociale peut très vite s'inverser. Et ça, il ne s'en rend peut-être pas compte. Et puis, d'autre part, c'est un vrai projet pour asseoir une nouvelle hégémonie, là où l'ancienne hégémonie n'a plus fonctionné. Et vous savez, il y a une phrase qu'il a employée lorsqu'il recevait, je ne sais plus quel chef d'État, dans le bureau Oval. Il a dit, vous savez, c'est le bureau où se prennent toutes les décisions du monde. Et ça, ça veut bien dire, ce n'est pas la zone d'influence, ça, c'est le monde. Alors maintenant... Parmi tout ce qui s'est écroulé suite à l'effondrement du mur de Berlin, il y a l'Alliance. L'Alliance, c'était, dans le contexte de la guerre froide, une relation gagnant-gagnant. Les Européens y gagnaient une protection, les États-Unis y gagnaient une véritable hégémonie et un contrôle sur toute une partie de l'espace mondial. Aujourd'hui, mais ça date pas de Trump, ça, déjà... sous Barack Obama, apparaissait l'idée que l'alliance devenait plus coûteuse que utile. Et donc, la nouvelle stratégie américaine, qui s'est peu à peu mise en place et qui s'est radicalisée, bien entendu, avec l'actuel président, a consisté à dire « remplaçons l'alliance par l'aubaine ». C'est-à-dire, sur chaque dossier, voyons avec qui il est intéressant de s'entendre pour pouvoir gagner. Et c'est ainsi qu'est née cette diplomatie de connivence qui fait que Poutine et Trump sont probablement plus proches l'un de l'autre que Poutine et que Trump et les dirigeants européens. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que nous refusons, nous Européens, parce que nous considérons décidément qu'il est beaucoup plus rentable d'être protégé par les États-Unis que de se protéger tout seul.
Thomas Gomard, qu'en pensez-vous? Et c'est pour ça que moi je m'interroge sur ce soutien américain à la coalition des volontaires cette semaine. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à un autre revirement trumpien?
Ça c'est certain. C'est que ce qu'a montré aussi l'année 2025, c'est la collusion idéologique entre le Kremlin et la Maison-Blanche. Et le fait que, intellectuellement, on peut tout à fait considérer que des notions comme sphère d'influence ne sont plus pertinentes, mais le problème central, c'est que ce sont des notions qui sont dans la tête de Donald Trump ou de Vladimir Poutine, et qui donc sont à l'origine des décisions qu'ils prennent. Et je vais essayer de vous montrer le contraire, parce que en réalité, si on ne lit pas ce qui est écrit par le Pentagone sur la stratégie de sécurité nationale, par exemple, ou si on ne lit pas ce qui avait été écrit par l'annual threat assessment, donc l'estimation de la menace annuelle qui avait été écrite en mars 2025 et qui écrivait noir sur blanc, le sujet principal pour les États-Unis, c'est le narcotrafic qui doit être traité comme le terrorisme, c'est-à-dire par des moyens militaires. Donc les signaux, si vous voulez, avant-coureurs, étaient là. Et effectivement, Sylvie Kaufmann le rappelait, ce sont peut-être des signaux qu'on ne veut pas voir parce qu'on conserve, une grille intellectuelle consistant à dire « c'est pas pertinent, le monde ne fonctionne pas comme ça, le monde fonctionne par le flux, fonctionne par les sociétés civiles, par le fait social, etc. »
Mais
je vais y venir, Bertrand Badi. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que on peut intellectuellement déconstruire tout cela. Mais on est obligé de se mettre à la place de décideurs qui, eux, agissent en fonction de leur chimère, leur lubie et des choses qui nous paraissent probablement absurdes. Moi, ce qui m'intéresse dans la doctrine Monroe, c'est le donne. Parce qu'en fait, il y a un signal aussi qui consiste à dire « je suis le parrain du monde occidental ». Le parrain au sens mafieux du terme.
Dans la doctrine Monroe, vous voulez dire.
Voilà, absolument. Et,
pour
et
Donald
donc, il y a
Trump,
un jeu de mots qui, à mon avis, est très important à relever. Et je pense que Donald Trump ferait sienne la fameuse formule d'Al Capone. Vous savez, Al Capone disait « on obtient beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu'avec seulement un mot gentil ». Alors, et c'est ça qui nous attend, en fait. C'est sur des sujets comme la coalition des volontaires, de se retrouver effectivement du jour au lendemain, cessez-le-feu signé, déploiement et puis retournement de situation. Alors après, on peut avoir des prévisions différentes selon les calendriers. Je finis juste une chose en disant que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, voilà, et ça, je pense que c'est important à rappeler parce que l'Atlantique Nord, pour l'Europe, c'est sa profondeur stratégique dans le cas d'une confrontation de longue durée avec avec la Russie. Et donc, c'est aussi pour ça que le Groenland est très important. C'est qu'en réalité, c'est est-ce que l'Atlantique Nord est sécurisé pour les Européens comme il l'est depuis 1945 grâce à la protection américaine. Et si c'est plus le cas, eh bien effectivement, les Européens vont avoir de très sérieux problèmes de sous-investissement militaire dans les années qui viennent. Dernier petit point sur le narcotrafic. Je pense que le narcotrafic, effectivement, là je rejoindrai Bertrand Badi, est le symbole de la décomposition intérieure de nombreuses sociétés, en particulier aux États-Unis. C'est-à-dire que la lutte de Trump contre le fentanyl pendant son premier mandat explique beaucoup de la dégradation de ses relations avec la Chine et l'Inde. Et que, en réalité, on peut voir le cycle stratégique de Donald Trump comme un cycle stratégique dont le principal objet est l'ennemi intérieur.
D'un mot, Sylvie Kaufmann, Etienne Perra, et puis on va passer à l'Iran.
Oui, alors Bertrand Badi parle de la demande sociale de force avec cette multiplication des hommes forts dans le monde. En ce qui concerne les États-Unis, il y a une demande sociale de force peut-être à l'intérieur, mais je pense que justement, une des constantes du mouvement MAGA, c'est on ne veut plus de ces guerres à l'extérieur, on ne veut plus de ces guerres dont on ne sait plus comment se sortir. Donc l'opération au Venezuela est intéressante parce que, en effet, militairement, c'est impeccable, si on peut dire, puisqu'il n'y a aucune perte de américaine. Hein. Il y a des pertes cubaines et vénézuéliennes, mais les hommes qui ont mené cette opération sont tous rentrés aux États-Unis sains et saufs. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Il y a quand même beaucoup de limites dans tous ces déploiements de forces. Trump a énormément parlé de... Il est totalement fasciné, au point il est même enivré par la réussite de cette opération au Venezuela, mais il est très très pauvre sur ce qui va se passer après et comment ils vont prendre le contrôle et gérer, comme il dit, diriger le Venezuela depuis Washington. Et on voit bien qu'en Ukraine, c'est pareil. On ne va pas revenir sur ses promesses de campagne électorale, sur la manière dont il allait résoudre ce problème, mais on voit bien qu'en Ukraine, c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'avait prévu. Et un an après, ça n'est toujours pas réglé. Au contraire, il a juste les moyens de dire que Poutine l'exaspère. Donc, je crois qu'il y a aussi, il faut garder à l'esprit aussi la question des limites de toute cette exposition de la force.
Étienne Perra.
Et peut-être pour rejoindre ce que disait Thomas Gomard sur la question des zones d'influence, c'est vrai que dès lors que dans l'esprit des acteurs, il y a quand même quelque chose qui se noue, c'est intéressant de penser à travers ça. Et moi, je dirais que sur la question du lien entre les États-Unis et le continent américain au sens large, là où on voit bien quelque chose qui relève d'une forme de zone d'influence, c'est l'articulation qui, en politique américaine interne, se fait maintenant entre, d'un côté, la question migratoire et de l'autre côté, la question du narcotrafic rebaptisé narcoterrorisme pour des raisons politiques assez bien comprises, qui font qu'au fond, l'Amérique centrale et l'Amérique latine va être vue dans le débat politique américain comme l'articulation entre ces deux choses. Et dès lors, il y a quand même bien quelque chose comme une zone, alors si ce n'est d'influence, mais au moins une espèce de carte mentale du continent américain et des Caraïbes qui se dessine, qui effectivement n'est pas tout à fait une zone d'influence au sens classique où on pouvait l'entendre, mais qui renvoie à une certaine perception d'un espace national. Et de ce point de vue-là, il y a quelques années, il y a un film qui était sorti qui s'appelait The Apprentice, qui parlait des premières années de Donald Trump. Bon, Donald Trump, il a quand même été formé aussi dans ses années 80 avec Ronald Reagan avec sa guerre contre la drogue, avec l'aboutissement dont on a aussi pas mal reparlé dans les derniers jours de l'opération qui avait été menée contre Noriega, alors à l'époque déjà de Bush père, mais qui était exactement dans cette continuité. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il reste bien quelque chose comme des zones, des sphères qui sont à penser malgré tous les changements qui ont été évoqués par Bertrand tout à l'heure.
Vous écoutez l'Esprit public, nous sommes toujours en compagnie d'Étienne Perra, qu'on vient d'entendre, directeur de Sciences Po Lille, Sylvie Kaufmann, journaliste au Monde, Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, et Bertrand Badi, professeur en relations internationales. On passe au deuxième thème.
France Culture, l'Esprit public, Astrid de Villene.
مسئله دیگری نیست که جمهوری اسلامی این رژیم فاسد و سرکوبگر سقوط خواهد کرد یا نه.
La question n'est plus de savoir si la République islamique, ce régime corrompu et répressif, tombera ou non. La seule question est le moment de son effondrement, et ce moment est plus proche que jamais. En ces instants décisifs, j'attends de vous que vous reveniez dans le giron de la nation et que vous utilisiez vos armes, non pas pour tirer sur le peuple, mais pour le protéger.
Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, l'une des figures de l'opposition en exil aux États-Unis, ici dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux le 7 janvier s'adressant à l'armée. Depuis, il continue à appeler le peuple iranien à descendre dans la rue et au secteur clé de l'économie à se mettre en grève. Effondrement de la monnaie, hyperinflation, corruption, chute du pouvoir d'achat, extrême pauvreté. C'est au bazar de Téhéran que tout a commencé. Les commerçants touchés par cet effondrement économique sont très vite rejoints par les autres strates du pays. Près d'un demi-siècle après leur prise du pouvoir, les mollahs iraniens sont une nouvelle fois confrontés à la rue. Depuis le 28 décembre, tous les soirs, sans discontinuer, les manifestants crient « mort au dictateur », brûlent des lieux de culte, jouent de la musique. Une femme cheveux au vent allume une cigarette sur les flammes qui embrase un portrait de l'ayatollah Khamenei. L'image devient le symbole de la révolte en cours qui pourrait devenir une révolution, comme celle de 1979 qui conduisit les mollahs au pouvoir après la chute du Shah et qui commença elle aussi dans un bazar. Et pourtant, des manifestations durables et vivaces, le régime des mollahs en a vu d'autres. Fin 2017 contre le chômage, 2019 après la hausse du carburant, répression sanglante, 1500 morts, et 2022, l'emblématique mouvement Femmes, Vie, Liberté après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour avoir mal porté le voile. Est-ce un peu de tout cela qui se rejoue dans les rues iraniennes? Est-ce que cette fois, le régime peut tomber alors que le monde l'observe et s'en mêle? À commencer par Donald Trump qui a prévenu à plusieurs reprises que les États-Unis interviendraient s'il y avait des morts. Et des morts, il y en a. Plus de 50 établis vendredi par l'ONG Iran Human Rights. Mais depuis, Internet a été coupé. Le Time en compte plus de 200. Il est encore trop tôt pour dresser le bilan. Mais la police a procédé à d'importantes arrestations. Le régime accuse l'étranger d'ingérence au sein des manifestants et promet de riposter en cas d'attaque. Nous sommes toujours, je le disais, en compagnie de Bertrand Badi, professeur en relations internationales. Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, votre prochain ouvrage chez Odile Jacob le 14 janvier. Thomas Gomard, directeur de l'IFRI, Institut français des relations internationales, votre prochain livre, Qui contrôle qui? Les nouveaux rapports de force mondiaux chez Talendier, ce sera le 22 janvier. Sylvie Kaufmann, journaliste au Monde, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, folio chez Gallimard, paru en octobre 2024. Et Étienne Perra, le directeur de Sciences Po Lille, historien des relations internationales. Comment observez-vous tous les quatre ce qui se passe dans la rue iranienne, Bertrand Badi?
Alors, d'abord, première remarque, ce que la guerre menée par l'Irak dès les lendemains de la révolution islamique n'avait pas réussi. Ce que les multiples interventions et jusqu'à la dernière en juin 2025 d'Israël n'a pas pu parvenir à faire. Ce que la force états-unienne n'a pas réussi à réaliser, ce que les sanctions internationales n'ont pas pu provoquer, eh ben, c'est l'énergie sociale qui est peut-être en train de le réaliser. C'est dire que ce n'est pas un post-scriptum dans l'histoire du monde. La véritable déstabilisation de ce régime, c'est pas la force, c'est pas la puissance, c'est pas la menace, c'est le mouvement social. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'il y a deux caractéristiques à la société persane. La première, c'est que c'est probablement de toutes les sociétés, en tous les cas du sud global, l'une des plus ouvertes sur le monde, les plus mondialisées, et qui vit comme une asphyxie le fait d'être retranchée dans un espace où la seule porte ouverte est vers la Russie. Et en Iran, on n'a jamais aimé la Russie, le grand voisin impérial menaçant. Les relations ne sont pas aussi bonnes que le journal télévisé nous le dit en présentant une alliance entre les deux pays. Et l'autre caractéristique de cette société persane, c'est une tradition révolutionnaire comme je crois il n'y en a pas d'autres dans l'histoire du monde. C'est-à-dire, vous savez, la légende persane, celle du Shah nommé de Ferdowsi, du grand poète épique du XIe siècle, repose sur ce monstre autocratique qui était Zorak, qui se régalait du cerveau des jeunes gens qu'on lui apportait pour son repas. Et finalement, et c'est toute la légende persane, c'est Feridun qui, brandissant l'étendard de la révolte, a pu venir à bout de ce monstre. Donc il y a toute une légende, et tout cela, les Persans se la racontent tous les soirs, déclament cette poésie révolutionnaire. Donc il y a une vraie tradition révolutionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que celle-ci a des ingrédients qui sont un peu nouveau par rapport à toutes celles de ces manifestations dont vous parliez tout à l'heure. D'abord, elle est très fortement articulée sur une souffrance sociale énorme liée à une vie économique qui devient absolument insupportable. Et je pense que le noyau de tout cela, c'est effectivement cette souffrance. Pensez, mon cousin m'a envoyé un message me disant « Le prix d'un œuf au bazar aujourd'hui, c'est exactement l'équivalent du prix d'une voiture au début de ce siècle. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire.
J'ajoute, donc, un kilo de viande serait estimé à 3 millions de tomans, c'est-à-dire 17,5 euros.
Voilà, voilà. Et on pourrait ainsi continuer à trouver des exemples. Donc, il y a la souffrance qui, effectivement, vient de plus en plus se transformer en demande de changement de régime. Alors, vous avez passé ce petit discours que l'on entend sur toutes les chaînes du fils de l'ancien chat d'Iran. Je pense que c'est pas la peine de timbrer ce mouvement avec l'effigie du chat ou du fils du chat. C'est un mouvement qui vient de la profondeur même de la société. Et ce n'est pas un homme qui quand même est l'héritier d'un régime qui a été terriblement d'oppression et de corruption qui viendrait en quelque sorte aspirer toutes les demandes et les attentes du peuple iranien. Ce qui est très intéressant, c'est que ce mouvement en Iran rejoint des mouvements qu'on voit un peu partout, c'est-à-dire pas de doctrine, pas d'idéologie, pas de parti, pas de leadership. Il y a quelque chose qui ressemble à la Gen Z, même si ce ne sont pas seulement des jeunes qui sont dans la rue, mais qui exprime une volonté très forte de réinvention de quelque chose. Et toute dernière remarque, la catastrophe pour ce mouvement, ce serait qu'il soit manipulé de l'extérieur. D'abord parce que l'histoire, et les historiens sont là, je pense, pour le confirmer, à montrer qu'un changement de régime qui se fait à l'initiative de l'extérieur, c'est toujours dramatique, et ça annonce des années, voire des décennies de décomposition sociale. Et ensuite parce qu'il n'y a aucune adhésion à quelconque forme d'intervention extérieure. Donc, le problème est un problème de conversion, peut-être à la faveur d'un certain nombre d'hommes politiques qui sont de ce régime, mais qui se sont distingués jusqu'à en être exclus par leur rôle de réforme du régime en place.
Une dépêche AFP qui vient de tomber, puisque je le disais, le bilan est très difficile à établir forcément, et il arrivera au compte-gouttes, 192 morts selon une ONG des droits humains après les manifestations en Iran. Un mot peut-être sur Reza Pahlavi qu'on vient d'entendre. Il est quand même scandé hein, par certains manifestants. On voit des affiches, Sylvie Kaufmann, de lui.
Oui, c'est intéressant parce que ce nom qui est scandé rappelle le nom d'un autre exilé qui était scandé aussi en 1978, celui de l'ayatollah Khomeini. Je crois que le fait que certains... Le fils du chat n'a pas exercé le pouvoir non plus. Il est parti à 17 ans avec son père et le reste de sa famille. Il est en exil aux États-Unis depuis. Mais le fait que cette figure apparaisse, c'est aussi, je crois, symptomatique, même si peu, effectivement, d'experts tablent sur son arrivée au pouvoir. C'est symptomatique de l'absence d'alternatives claires, parce que la répression a été telle par ce régime des Mollahs que l'opposition a été totalement décapitée. Donc, c'est probablement cela qu'il faut voir dans cette apparition de la figure de Reza Pahlavi. Évidemment, c'est très impressionnant, bien sûr, ce qui se passe. Et comme vous disiez dans votre introduction, c'est un peu dans ce mouvement social énorme qui jaillit, c'est un peu de tout ce qu'il y a eu dans les mouvements précédents et qui ont été terriblement réprimés. On voit que cette répression à nouveau est en train de s'exercer. Donc, sur quoi est-ce que ça va déboucher? Je crois qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Soit la répression atteint son but et les gens qui font preuve, je dois dire, d'un courage absolument incroyable ou d'un désespoir incroyable rentrent chez eux comme lors des derniers soulèvements, soit ce que beaucoup de gens ont l'air de considérer comme possible, c'est une sorte de relève au sein de ce pouvoir sans véritable changement de régime, c'est-à-dire que les gardes de la révolution, peut-être, qui sont évidemment un élément central du pouvoir en Iran actuellement, arrive à évincer, décide d'évincer le guide suprême Khamenei, qui a quand même 86 ans, je crois, et organise une sorte de remplacement, mais qui ne serait, qui peut, peut-être pourrait calmer provisoirement la population, mais en tout cas ne serait pas un véritable changement de régime, serait probablement plutôt une sorte de révolution de palais, soit un effondrement du régime, mais là je pense qu'on n'y est pas encore, ça prend du temps. Rappelez-vous que la révolution iranienne de 79, elle a pris pratiquement les manifestations ont duré pratiquement un an avant que le Shah finisse par quitter l'Iran avec sa famille et même que le premier ministre Bakhtiar soit remplacé par l'ayatollah Khomeini. Donc tout ça peut prendre encore du temps et malheureusement causer beaucoup de morts, sans parler de la pression extérieure, parce que c'est vrai, je termine là-dessus, que ce régime est soumis en fait à deux pressions, la pression interne de la population, la pression sociale, et puis la pression externe américaine et israélienne d'ailleurs.
Étienne Perra.
Oui, je pense qu'on est effectivement dans une situation où, comme le disait Bertrand Badi tout à l'heure, on a une jeunesse qui se mobilise. Et c'est vrai qu'il suffit d'être allé en Iran au cours des 10 dernières années, on va le dire, pour connaître ce dynamisme de la jeunesse iranienne et sa difficulté face à toutes les règles qui lui sont imposées. Et en effet, tout le mouvement Femme, Vie, Liberté, il y a maintenant 3 ans, l'illustrait. Moi, je suis aussi assez sceptique sur la question du retour de la dynastie Pahlavi en Iran. Alors, ceci dit, on voit bien que l'héritier Pahlavi aimerait bien jouer sur une espèce de parallèle avec ce qui s'était passé en 1979, où là aussi, en quelques jours, le Shah était parti. C'est d'ailleurs ce que la presse iranienne avait titré. Elle avait titré « Le Shah est parti », et quelques jours plus tard, elle avait titré « L'imam est arrivé ». Imam Ahmad, après avoir titré. Donc, effectivement, on pourrait se dire qu'il y a un souhait d'inverser un petit peu les choses avec des titres qui pourraient être exactement l'inverse. Je pense que ce qui est intéressant dans ce qui était cité tout à l'heure, ce qu'on entendait de la parole d'héritier, c'est qu'il y a quand même un terme qu'il utilise pour désigner la République islamique, qui est un terme très fort, qui est le terme de fasid, qui désigne la corruption, le fait d'être corrompu, qui est d'ailleurs un terme qui était utilisé à l'époque de la Révolution pour critiquer le régime Pahlavi, qui lui aussi était attaqué comme corrompu, comme népotique et comme ayant détourné notamment l'argent du pays. C'est vrai que cette question de corruption, elle renvoie quand même à toute une perception morale qui est à la base aussi de l'indignation, du scandale, de l'écart extrêmement fort entre la pauvreté de la population, la richesse en réalité des élites, et puis le côté très népotique. D'ailleurs, il y a à peu près un peu plus de 15 ans, quand il y avait eu les troubles en 2009, l'imam Khamenei avait lui-même d'ailleurs qualifié de querelle de famille les désaccords qu'il y avait eu, les troubles, en disant bon, tout ça finalement c'est des clans un petit peu qui s'affrontent, on va régler les affaires. Et je pense que le problème, c'est que les affaires de famille là commencent à être assez mal perçues dans la société iranienne.
2009, pour compléter, c'est ce qu'on a appelé le mouvement vert à l'époque contre Mahmoud Ahmadinejad.
Tout à fait, avec ce jeu assez typique de la République islamique aussi, où il y a ces élections dans un cadre assez contrôlé, utilisé aussi par différentes factions. Peut-être sur la situation à l'heure actuelle et ce qu'on peut observer, d'abord, c'est qu'évidemment la base quand même interne et internationale du régime s'est beaucoup rétrécie depuis 2 ans, avec la perte d'un certain nombre d'alliés dans la région, qui permettaient aussi de jouer sur des équilibres et d'éviter d'être au centre de l'attention, évidemment en Syrie, évidemment au Liban, en Palestine, au Yémen également, et puis en interne une base politique qui fait que la répression est quand même toujours plus importante, parce qu'un certain nombre de leviers qui existaient, de points d'équilibre, ont disparu. C'est vrai que l'interrogation qu'on peut avoir, c'est sur le soutien que va avoir le mouvement, puisque comme le disait Bertrand, il y a quand même, de ce point de vue-là, toujours une petite tendance à faire des discours. C'est toujours facile de dire qu'on soutient un mouvement envers et contre tout quand on est dans un salon en Europe ou en Amérique du Nord. C'est autre chose de s'y investir très concrètement. Là, quand même, les deux grosses difficultés auxquelles le mouvement est confronté, c'est un, tout son appui typique, en effet, de la génération Z sur les réseaux sociaux, sur Internet, est confrontée aux difficultés, puisque depuis 2016, l'Iran s'est quand même lancé dans la construction d'un Internet dit souverain, ce qui fait partie aussi des petites tendances qu'on observe dans un certain nombre de pays. L'idée étant de pouvoir couper les ouvertures au reste du monde. Alors certes, il y a des manières d'essayer de contourner, mais qui sont quand même toujours compliquées. Ça, le bazar de Téhéran et des autres grandes villes, c'est fait un petit peu une spécialité de fournir du matériel qui permet de contourner, de bidouiller un certain nombre de choses, mais c'est quand même pas simple. Et on voit que même là, il y avait eu des annonces d'Elon Musk, le fait que Starlink mettait à disposition son réseau satellitaire. Bon, les connexions à Starlink, elles passent par les GPS, il y a des brouilleurs qui sont mis en place, qui font que pour les populations, c'est pas si simple d'accéder à Starlink. Or, on voit bien quand même que l'appui sur des infrastructures numériques minimales est quand même assez indispensable pour faire vivre le mouvement autour de la jeunesse. Et donc ça, c'est quand même une grosse difficulté. Et est-ce que une intervention de l'extérieur pourrait venir sur un plan militaire d'une manière ou d'une autre appuyer le mouvement? On entend les déclarations des uns et des autres, mais la dernière fois que les États-Unis ont envoyé des hélicoptères en Iran, ça s'est pas très bien passé. Quelques-uns s'en souviennent encore. Donc, ce qui s'est passé au Venezuela, avec quand même la proximité des côtes, avec une configuration géopolitique très différente, n'est pas forcément à venir en Iran. Donc, on peut être prudent de ce point de vue-là.
Thomas Gomard, quel lien peut-on faire entre ce qui s'est passé au Venezuela et l'Iran, si on peut faire un lien? Et j'ajoute donc les déclarations de Donald Trump, j'en ai parlé en introduction, qui a plusieurs fois dit qu'il serait là en soutien à la population. Et ce tweet ce message posté sur son réseau social hier, l'Iran aspire à la liberté, comme peut-être jamais auparavant, les États-Unis se tiennent prêts à aider. 3 points d'exclamation. Le New York Times qui nous dit ce matin, ou hier plus exactement, qu'il aurait été briefé, le président américain, sur une potentielle intervention sur place en Iran. Thomas Gomard.
Pour répondre à Astrid de Villene, d'abord, j'aurais saluer le fait que vous mettiez ce sujet à l'ordre du jour, parce qu'il y a un sous-traitement médiatique, en fait, de ce qui se passe en Iran, qui est assez frappant. Et qui, à mon avis, sous-estime en réalité l'importance de ce qui est en train de se passer. Parce qu'en se focalisant, en fait, pour des raisons évidentes, sur l'Iran, cela doit nous conduire aussi à prendre en compte la recomposition de la région qui est à l'œuvre. Et ce qui me conduit au deuxième point, c'est que moi, je pense là aussi, en termes de méthode, qu'il est complètement inutile d'expliquer uniquement les choses par l'aspect de l'énergie sociale. C'est pas l'énergie sociale et la violence stratégique séparées. C'est en fait d'essayer de comprendre que les deux phénomènes sont d'une complexité inouïe et interagissent en permanence. Donc expliquer ce qui se passe uniquement...
Vous croyez que les gens au fond de l'Iran sont réceptifs des manipulations politico-diplomatico-militaires?
Alors je crois, Bertrand Badi, que les gens au fin fond de l'Iran ont été bombardés en juin 2025. Je crois que les gens au fin fond de l'Iran subissent les conséquences du snapback, c'est-à-dire que les Européens ont repris des sanctions économiques cet été, et que donc ça a évidemment des effets sur la situation économique du pays.
Il
et que donc
la souffrance sociale.
Ça, vous l'appelez comme vous voulez. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas, à mon sens, dissocier ce que vous appelez l'énergie sociale de ce que j'appelle... J'essaie de relier les choses pour dire qu'à mon avis, laissez-moi finir, cher Bertrand. Il y a des éléments d'explication qui sont plus complexes qu'uniquement de dire c'est un phénomène intérieur social.
Bon. Ça, c'est vous qui dites, c'est pour moi.
Alors, je peux finir ma phrase?
Allez-y,
Thomas Gomard.
Oui, mais enfin, ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites, enfin.
Mais laissez-moi m'exprimer, alors. Alors, le dernier point, c'est en réalité, au fond, qui soutient Khamenei? Il y a effectivement cette contestation qui gagne de l'ampleur, mais il y a également un régime qui s'est caractérisé ces dernières années, après notamment l'épisode de 2022 déjà rappelé autour de Masma Amini, qui s'est caractérisé par son appareil répressif. Et les chiffres que vous avez rappelés à l'instant en témoignent. C'est-à-dire que le système iranien repose aussi par une partie de la population qui bénéficie de ce système et qui est contrôlée par les Pasdaran, qui est contrôlée par le système judiciaire. Et que là aussi, notre capacité à nous à apprécier, je dirais, le rapport de force en interne est, à mon avis, très difficile à établir.
très court pour répondre, Bertrand Badie. Après, il faudra arriver au coup de cœur.
Oui, je crois qu'on s'est mal compris.
Ça nous arrive parfois, cher Bertrand.
Probablement parce que je suis un mauvais professeur. Mais ce que je voulais dire, c'est pas qu'il y a l'énergie sociale d'un côté et le monde de l'autre. Bien entendu que tout est en interaction. C'est ça, d'ailleurs, que vous ne voulez pas admettre. Moi, c'est un modèle interactif qui m'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une stratégie qui se fait dans l'ignorance des effets de souffrance sociale et des effets de mobilisation sociale conduit à l'échec. On l'a vu dans toutes les guerres d'intervention. Et là, on le voit également dans cette ignorance de la dimension sociale des tragédies internationales. C'est tout, mais je dis pas que c'est pareil. Qui aurait la stupidité de penser que le social est complètement indépendant de ce qui l'environne?
Allez-y, très court.
Juste, oui, non, juste une chose, très rapidement. Tout ce que, quelle que soit l'issue de ce nouveau soulèvement, ce que ça montre quand même, c'est l'échec total de cette révolution islamique. La population, de toute évidence, n'y adhère plus du tout. On a vu d'ailleurs les femmes maintenant se libérer progressivement, enfin, du port du voile. Voilà, c'est un échec total.
Qui aura quand même tenu 47 ans.
Absolument, mais qui se termine dans un échec monstrueux.
On continuera à suivre ce mouvement et on passe tout de suite à vos coups de cœur. Merci à tous les quatre d'avoir été là pour l'Esprit public. Bertrand Badie, professeur en relations internationales, Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale, on en parlait. C'est votre prochain livre chez Odile Jacob, à paraître le 14 janvier. Qu'avez-vous à recommander à nos auditeurs, Bertrand Badie?
Eh bien, justement, pour rester dans le ton de ce que nous venons de dire, mon coup de cœur, aujourd'hui, il s'adresse à Yashin Kayani. Je ne sais pas si vous savez qui est Yashin Kayani. C'est celle qui a adapté Bella Ciao en persan. Asgalouyeto, tasedoyema, bella bella ciao. Et c'est une chanson extrêmement émouvante. Pourquoi elle est émouvante? D'abord parce qu'elle exprime cette souffrance sociale dont certains n'aiment pas qu'on en parle. D'autre part, mais surtout, parce que elle est très hugolienne, cette chanson. C'est la sympathie des âmes, c'est l'empathie généralisée. Et dire sur une mélodie occidentale la souffrance sociale du peuple iranien, c'est très beau.
Merci beaucoup Thomas Gomard, directeur de l'Institut français des relations internationales, à paraître le 22 janvier. Qui contrôle qui? Les nouveaux rapports de force mondiaux chez Talendier. Avez-vous un coup de cœur pour nos auditeurs?
Oui, alors, dans un tout autre registre que celui choisi par Bertrand Badie, c'est un roman de Benjamin Diersten, qui est un jeune auteur de polar et qui a publié en 2025 Bleu, Blanc, Rouge chez Flammarion, au pluriel. C'est un roman très documenté sur la fin des années Giscard et Mitterrand. C'est cru, c'est documenté, comme je l'ai dit, et c'est très efficace pour ceux qui aiment les polars.
Sylvie Kaufmann, journaliste au Monde, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie chez Folio Gallimard.
Alors moi, je reste un petit peu dans notre registre d'aujourd'hui pour approfondir nos connaissances sur l'Amérique latine et ses rapports avec les États-Unis. C'est une série documentaire qui est disponible sur Arte, qui s'appelle « L'Amérique latine, un continent sous influence ». C'est en 3 épisodes et ça a été réalisé l'année dernière par Jean-Baptiste Peretti et Delphine Jodot. Et le 3e épisode en particulier, ça retrace les relations, ça couvre les relations de l'Amérique des États-Unis et de l'Amérique latine au cours du XXe siècle et du XXIe siècle. Et le 3e épisode, justement, commence à l'arrivée au pouvoir de Chavez au Venezuela. Et voilà, c'est vraiment passionnant et très, très éclairant. Je le recommande.
Je vous prends la parole une seconde, Étienne Perra, parce que mon coup de cœur est un peu en lien avec ce que vous venez de dire. C'est un documentaire sur Javier Milei, l'homme à la tronçonneuse, par François-Xavier Freeland, disponible sur publicsena.fr. À vous, Étienne Perra, vous êtes le directeur de Sciences Po, l'historien des relations internationales. Avez-vous fait vos devoirs?
Eh bien, moi, je vous propose de remonter vers le pôle Nord, puisque moi, ce que je recommanderais, c'est un ouvrage qui est paru là en traduction quelques mois après la version originale, donc d'Elisabeth Buchanan, qui est une spécialiste justement des questions arctiques, qui travaille en Australie, comme quoi on est vraiment dans la mondialisation dans toute sa splendeur. Elle écrit un livre, alors avec un titre qui est pas très académique, parce que c'est un ouvrage qui se veut justement de vulgarisation des enjeux, qui s'appelle en traduction française « Alors, tu veux acheter le Groenland ?»
Ah bah ça tombe à pic.
Et ça permet de revenir sur cette histoire du Groenland, et je pense que c'est dans un langage direct.
Merci.
Pour parler aux gens qui le comprennent.
Merci infiniment d'avoir été là ce matin en direct pour l'Esprit Public, et merci à vous de nous avoir suivis comme tous les dimanches. À la semaine prochaine, en direct à 11h, n'oubliez pas de vous abonner au podcast de l'Esprit Public sur l'application Radio France. Très bel après-midi à l'écoute de France Culture.